bonjour à tous. On va peut-être commencer. Je voudrais d'abord vous remercier tous pour être venus aussi nombreux à cette conférence et remercier le professeur Gilles d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Alors avant de vous donner la parole, monsieur Gilles, peut-être remettre cette conférence dans son contexte. Elle est organisée dans le cadre d'une école thématique qui est organisée au sein d'un laboratoire de l'Université de Poitiers et du CNRS, qui est le laboratoire STEAM, signalisation et transport ionique membranaire. Sur cette école, se sont inscrits des participants, des chercheurs, juniors, plus confirmés, qui viennent s'initier à certaines techniques d'investigation sur les canaux ioniques. Ces chercheurs viennent de différents laboratoires de France, du privé ou du public. Et nous sommes ravis d'avoir pu les accueillir à Poitiers. Donc merci d'être venus et nous sommes ravis de vous accueillir à cette conférence à l'occasion de cette école thématique. Nous avons discuté avec M. Gilles sur le sujet qui pourrait intéresser de façon transversale les chercheurs que nous sommes et les citoyens de la cité. Enfin, je crois que M. Gilles va avoir l'occasion de parler de ces différentes populations. Et nous avons cherché un thème qui pouvait nous rassembler et nous sommes donc partis sur la recherche, enfin l'éthique pour le citoyen et l'éthique pour le chercheur et comment les deux pouvaient s'opposer ou se rencontrer. Merci encore d'avoir accepté d'être là parmi nous. Alors pour vous dire quelques mots sur M. Gilles, le professeur Gilles est arrivé à Poitiers en 1966 comme interne des hôpitaux après avoir débuté ses études de médecine à Oran et à Bordeaux. M. Gilles est neuropsychiatre. Il a été nommé professeur de neurologie en 1975 à l'Université de Poitiers et au CHU de Poitiers. Il a été doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de 1999 à 2008 et il est aujourd'hui professeur émérite, et ce depuis 2011, et continue d'être chargé de l'enseignement d'humanité scientifique à Sciences Po. Monsieur Gilles a présidé le comité d'éthique du CHU, créé en 1984 à Poitiers, et est actuellement directeur de l'espace de réflexion éthique Poitou et Charente. Il coordonne chaque année depuis plus de 6 ans un séminaire d'éthique scientifique pour les écoles doctorales scientifiques de l'université, auquel le professeur Valérie Corona participe depuis 3 ans, et j'en profite pour remercier Valérie de m'avoir permis d'entrer en contact avec M. Gilles pour organiser avec lui cette conférence. Donc, M. Gilles, je vous laisse la parole. Nous aurons l'occasion à la fin de votre intervention de prolonger cette conférence par quelques questions que je vous invite à préparer pour un débat qui s'avère très intéressant. Monsieur Gilles, merci encore d'être venu.
Voilà, merci beaucoup pour votre accueil et pour la qualité de notre rencontre il y a quelques mois. Je vais vous proposer, vous voyez, je n'ai pas de diapo, plus une méditation, parce que l'éthique se prête mal aux péroraisons. Et encore moins, semble-t-il, à ceux qui pourraient faire passer l'éthique pour une science. Et pourtant, c'est bien d'éthique scientifique dont nous allons essayer de parler. Alors, invoquer la responsabilité du chercheur scientifique, nos sociétés sont incontestablement prêtes à le faire. De la même manière qu'elle est prête à invoquer et à quêter la responsabilité du médecin dans la pratique des soins, du pharmacien dans la délivrance de médicaments, de l'architecte dans la construction de la maison, du maire dans la gestion de l'occupation des sols, a-t-il déclaré des parcelles constructibles en zone inondable, ou dans le bon entretien du parc d'autobus communal. Les exemples pourraient ainsi être multipliés. Mais cette responsabilité-là ne peut être ni résumer l'éthique, que ce soit l'éthique du médecin, du pharmacien, de l'architecte, du maire, voire du chercheur, que l'on tiendrait bien sûr comme responsable, par exemple, lui, de fraude dans la sincérité des résultats, de plagiat, de conflits d'intérêts. Sur cette responsabilité-là plane l'ombre du juge et plus globalement du jugement de quelque structure institutionnelle que ce jugement émane de l'organisme de recherche, qu'il soit ou non universitaire, au comité de rédaction d'un journal. Le tout de plus en plus alimenté par des avis critiques répandus sur la toile. Il est un fait que le nombre de rétractations d'articles scientifiques, même s'il demeure marginal, est en croissance régulière, en raison du poids des indicateurs bibliométriques dans la notoriété des chercheurs, dans le financement des recherches, dans les carrières aussi des chercheurs et des enseignants-chercheurs. On connaît l'adage « publish or perish », on publie ou on meurt, quoi. La falsification et la fabrication des résultats visent les revues ayant les facteurs d'impact les plus importants. Alors, une telle responsabilité renvoie à la règle, à la loi, par exemple, pour ce qui concerne le Parlement, à la réglementation spécifique de la profession, et ça, ça relève de la déontologie. Alors, même si les chercheurs ne disposent pas aujourd'hui d'un code officiel de déontologie, à l'instar des médecins et des avocats, le monde de la recherche se préoccupe depuis près de 25 ans de définir ce qui est appelé une déontologie et une éthique du scientifique. Une charte de déontologie des métiers de la recherche a été signée le 29 janvier 2015 à Paris, lors d'un séminaire dédié à l'intégrité scientifique et la CURUISEF, qui est la Conférence internationale des responsables des universités et institutions scientifiques d'expression française, a récemment publié, il y a quelques semaines, un projet de serment du docteur scientifique. Serment du docteur scientifique dont l'ambition est de résumer les règles comportementales auxquelles le chercheur doit se soumettre. Bien entendu, ces règles d'ordre public, puisqu'à serment, doivent s'appuyer sur la morale, je veux dire sur la conscience morale des chercheurs. Elles sont éthiques, bien sûr, ces règles, mais il ne s'agit pas d'éthique en général, ni d'une éthique de la responsabilité en particulier. Car si des règles sont nécessaires, le piège serait de croire que l'éthique se résume en l'observance d'une réglementation, d'un corpus de règles dont il conviendrait de s'assurer que pas une n'a été oubliée pour se prévaloir d'un comportement exemplaire. Non, voilà, même ce serment confond l'éthique et la déontologie. Dans ce serment, mis au point par un groupe de chercheurs et qu'un de mes collègues m'a passé il y a quelques semaines, je n'ai vu que de la déontologie, de la règle. Mais je n'ai pas vu de l'éthique, parce que l'éthique, elle a d'autres exigences. D'abord, l'éthique se tient toujours à distance des jugements de valeur sur des personnes. L'éthique, par ailleurs, n'est jamais une liste de réponses. Faire ceci, faire cela, être sincère, ne pas plagier, c'est une banalité telle que c'est évidemment éthique de ne pas plagier, mais où est le problème? C'est de la déontologie, ça n'est pas de l'éthique. L'éthique n'est pas une réponse. L'éthique est un questionnement qui tient souvent en ces quelques mots « comment faire pour bien faire ?» sachant qu'il ne suffit pas de faire le bien pour bien faire. L'éthique est donc un exercice de discernement de conflits de valeurs. Et dès lors, la question est de savoir pourquoi avoir fait surgir l'éthique dans le champ de la recherche. Ce qu'on peut poser de la manière suivante, l'éthique est-elle une mode ou est-elle une nécessité ? Et si elle n'est pas qu'une mode, quelles sont les racines de la prise de conscience de la nécessité d'une éthique de la recherche. Force est d'abord de passer par l'histoire des mots pour repérer quand le mot éthique est venu se substituer au mot moral. Car il est un fait qu'étymologiquement, rien ne sépare ces deux mots. L'un est de racine grecque, l'autre de racine latine. Et l'un et l'autre veulent dire, dans leur langue vernaculaire, le grec et le latin, mœurs, comportement, manière d'être. L'éthique à Nicomaque d'Aristote pourrait aussi s'intituler morale à Nicomaque. On a choisi la filiation grecque du mot parce que Aristote écrivait en grec avant qu'Albert le Grand et saint Thomas ne s'en emparent. La morale a toujours été une branche de la philosophie morale, et de la théologie morale. Ces mots ont ainsi longtemps été employés indistinctement. Il est intéressant de voir quand la fracture et la nouveauté s'est opérée. La nouveauté s'est opérée d'abord en accolant bios et éthique. Et cette nouveauté qui a fait créer le terme de bioéthique, on peut la dater de manière précise. C'est von Rösenlaer-Potter, oncologiste à l'Université du Wisconsin aux USA, qui a publié en 1971, voilà la date de naissance, et vous voyez que c'est hier, un livre intitulé « La bioéthique, un pont vers le futur », Bridge. Le mot composé souhaitait ainsi unir les progrès des connaissances des sciences de la vie et les valeurs humaines. Voilà l'ambition. Le bios et l'éthique. L'éthique étant donc assimilée à la quête des valeurs humaines. Et ce mot composé a souhaité aussi témoigner d'une espèce humaine acceptant sa propre responsabilité dans sa survie et dans la préservation de son environnement naturel. Alors l'auteur, quand on le lit, veut se tenir à distance en 1971 des discours philosophiques abstraits et y pose carrément le problème en termes de survie de l'homme. Mais dans un sens très particulier, c'est-à-dire les conditions d'une survie acceptable de l'homme sur Terre. Et il trouve effectivement que la science a à cet égard une responsabilité particulière. Alors, sans vouloir entrer dans le détail de la pensée de von Rösenlaer-Potter, qui nécessiterait un exposé en soi seul, l'essentiel est sans doute de retenir cette métaphore du pont, un pont vers le futur, du pont que devait être la bioéthique entre le présent et le futur. Préoccupez-vous d'éthique, sinon quel sera votre futur? Entre l'avenir de l'homme et celui de son environnement, qui sont connexes, entre les sciences et les valeurs humaines. Le pont entre les sciences et les valeurs humaines. Ainsi, quelle que soit l'évolution du concept de bioéthique, il est la porte d'entrée de l'éthique dans le monde scientifique. Vous voyez, nous sommes déjà beaucoup plus haut, j'allais dire, que sur le plagiat, la sincérité et les résultats, qui ne nous intéressent pas. Enfin, je veux dire, on va pas brasser des évidences. L'éthique ne se contente pas de discours de comptoir. Oui, il faut être sincère, il faut être honnête. Mais tout ça est tellement banal que je ne vois même pas pourquoi on en parlerait. Ça ne pose pas problème. Quelle que soit l'évolution donc du concept de bioéthique, c'est ce concept qui est la porte d'entrée de l'éthique dans le monde scientifique. Qui est ainsi provoqué à quoi, en fait, le monde scientifique? Eh bien, à sortir de son isolement, et j'allais dire à sortir de sa solitude historique. Mais cette ouverture de la science à l'éthique, qui est en réalité ouverture de la science à la société, qui est en vérité ouverture de la science à la citoyenneté. Elle puise ses racines dans des crises et des prises de conscience qui déferlèrent sur le monde de manière pulsatile avant que l'éthique ne s'impose comme une nécessité. Autrement dit, ce sont des crises de conscience et des prises de conscience qui ont peu à peu généré cette entrée de l'éthique dans le monde scientifique et donc cette entrée de la science dans la société et dans la citoyenneté. Alors, quelles sont les sources de ce cheminement? Il n'est pas question, évidemment, quand on parle de choses aussi récentes, de faire œuvre historique. Les historiens s'en chargeront un jour. Nous pouvons faire qu'un exercice narratif, descriptif des événements, pour bien sûr déjà proposer un début d'interprétation. Et c'est quelques-unes de ces sources que je voudrais ici souligner. L'une des sources de ce cheminement, et peut-être la source essentielle, fut sans doute Nuremberg. Un tribunal international y jugea en 1946, tout le monde le sait, les criminels de guerre nazis. Ce fut un procès inédit et inoubliable. Non pas d'ailleurs par l'horreur même des crimes qui y furent jugés. L'horreur ne s'est pas arrêtée avec la fin du nazisme. L'horreur des crimes nazis ne procède pas d'une évaluation quantitative des crimes sur une échelle linéaire, y égale à x plus b, ou logarithmique, où on mettrait tout à fait en haut de la courbe les crimes nazis. Non. Nuremberg, en fait, a pu révéler que les crimes qui y furent dévoilés renvoyaient à un autre type de mal. Ce type de mal, on a pu l'appeler le mal radical. Mal tellement radical qu'on a voulu le considérer comme imprescriptible, alors que on ne répond pas toute sa vie des crimes, j'allais dire, ordinaires. Là, ce mal radical fut déclaré imprescriptible, il fut appelé crime contre l'humanité, car ces crimes ont visé à nier en l'homme ce qu'il avait d'humain, à extirper en l'homme ce qu'il avait d'humain, en prétendant que les membres de certaines communautés humaines n'avaient pas la dignité plénière d'être humain et devaient être considérés comme des sous-hommes. Le mal radical, il est là. Il est cette atteinte intolérable à ce qui fonde la citoyenneté du monde et qui est l'égalité de tous les hommes. Et ces crimes ont en fait atteint l'humanité tout entière parce que de cette humanité dont nous faisons partie, nul groupe, nulle fraction ne peut être désolidarisée. La désolidarisation d'une fraction porte atteinte à l'ensemble de l'humanité. Mais Nuremberg fut aussi autre chose. Il révéla ce procès que ces crimes contre l'humanité furent aussi perpétrés au nom d'une politique de santé publique menée par le Reich et aussi pour obtenir des progrès techniques et scientifiques en biologie et en médecine. La science, considérée comme le moteur du progrès de l'humanité, la médecine, considérée comme la capacité à déployer la sollicitude à l'égard des maladies qui affligent l'humanité, ont été portées par des scientifiques et des médecins, de vrais scientifiques, de vrais médecins, mais qui ont participé aux crimes contre l'humanité. Ce furent des équipes de médecins qui procédèrent à des expérimentations chez les prisonniers des camps, juifs ou tziganes, qui procédèrent, juifs ou tziganes, qui ont été qualifiés de vermines pullulantes ou encore de microbes nuisibles. Pour faire avancer les sciences, il avait suffi pour cela de nier la condition de certains hommes en faisant d'eux de simples instruments, de simples moyens d'une politique de santé ou d'une politique scientifique. Oui, les sciences ont pourtant avancé. Et il y eut des découvertes non publiées, mais dont on sait qu'elles furent engrangées par les Américains et par les Russes. Or, ce que montre Nuremberg, c'est ce danger sur lequel, deux siècles plus tôt, Kant avait déjà insisté, que Kant avait repéré, l'homme ne peut être jamais regardé seulement comme un moyen. L'homme ne peut pas être instrumentalisé, l'homme doit toujours être une fin en soi. C'est ce que Kant a appelé le règne des fins, et il disait, fais en sorte à chaque instant de ta vie que tu considères l'autre non seulement comme un moyen, mais toujours comme une fin en soi. C'est vrai, il ne faut pas avoir d'innocence niaise. À quoi sert mon boulanger ? À me faire mon pain. À quoi sert mon plombier ? À me réparer. Mais ce qui fait la dignité de mon boulanger, c'est la relation que j'ai avec lui. Est-ce que mon boulanger m'intéresse en tant qu'homme ? C'est la question qui est posée par Emmanuel Kant. Nous ne pouvons pas échapper à être des instruments les uns pour les autres. Mais le questionnement éthique est toujours, à tout moment, de dire, est-ce que l'autre compte aussi pour lui-même ? Est-ce que je me préoccupe de la vie de mon boulanger, de son destin, de son histoire ? Et oui, l'homme doit toujours être une fin en soi parce qu'il possède, disait Kant, une dignité. Cette dignité, Kant l'a liée à la personne humaine. Alors évidemment, on a l'impression que l'on tourne en rond. Effectivement, Kant a utilisé pour définir la personne une méthode qu'on appelle une méthode apophatique, c'est-à-dire qu'il avait dit ce que n'était pas une personne. Pour comprendre ce qu'est quelque chose, il faut comprendre ce que ça n'est pas. Et il avait dit, la personne n'est pas une chose. Parce qu'une chose, ça peut s'acheter, ça peut se vendre, ça peut s'échanger. Tandis qu'une personne, ça ne peut ni s'acheter, ni se vendre, ni s'échanger. Elle n'a pas de prix, elle est au-dessus de tout prix, elle est insubstituable, elle est un événement unique dans l'histoire du monde. Et sitôt que l'on repère tout ça, eh bien, effectivement, on a la définition de la personne humaine et de la dignité qui lui est coextensive. Et Nuremberg eut enfin une troisième, une ultime spécificité. Parce que, bien sûr, imaginons que les juges n'aient prononcé qu'un verdict, comme il est d'usage dans tout procès. Eh bien, s'ils n'avaient fait que cela, ils auraient renvoyé le drame sociétal à la seule sphère privée, c'est-à-dire aux peines encourues par chacun des prévenus. Un tel est condamné à mort, un tel est condamné à tant d'années de prison, eh bien voilà, on est dans la sphère privée. Mais beaucoup croient que Nuremberg, c'est surtout ça, c'était un désir de vengeance, tuer celui-ci, emprisonner celui-là, oui. Si Nuremberg n'avait fait que cela, Nuremberg n'aurait pas eu un intérêt aussi important dans l'histoire du monde. Et non. Les juges de Nuremberg ont fait ce qu'aucun tribunal n'avait jamais fait. Et ce qu'aucun tribunal n'a jamais fait depuis. C'est que, saisis par l'ampleur des révélations qui leur ont été faites, ces juges ont aussi poussé un cri. Ce cri, c'est « plus jamais ça ». Et ce « plus jamais ça » les a conduits vu l'urgence, et eux qui n'en avaient pas le pouvoir, pour une fois que les juges exercent en dehors de leur pouvoir. C'était l'inventivité dont ils ont fait preuve en rédigeant un code. Plus jamais ça, c'est le code de Nuremberg. Ils ont écrit un code, c'est-à-dire qu'ils ont éprouvé le besoin de dire au monde qui les avait missionnés, et bien sûr d'abord aux alliés, prenez vos responsabilités, mais voilà ce qu'on ne doit plus observer. Voilà ce qu'il faut faire en matière de recherche pour respecter la dignité de l'être humain. Et on voit que c'est par la recherche que l'éthique et la science se sont réunis. Ce code que vous pouvez regarder sur Internet très, très facilement, puisque bon, il sort immédiatement dès qu'on le met sur le moteur de recherche, fit preuve d'un certain courage. C'était de dire la science ne peut pas avancer sans expérimentation. Bien sûr, on est dans la biologie, là, et il s'agit d'expérimentation humaine. Oui, elle est nécessaire au progrès des sciences de la vie. Mais elle doit respecter des règles. Et alors Nuremberg écrit déjà quelques règles. Mesurer les risques, c'est un mot important. Assurer un suivi des gens avec lesquels on expérimente. S'assurer du consentement. Ah oui, on en était très loin dans les camps nazis. S'assurer du consentement éclairé du malade. Être d'une haute qualité scientifique. Cela, c'était absolument génial, parce que c'est la première fois qu'on voit affirmer tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique. Mais tout ce qui est scientifique n'est pas obligatoirement éthique. Alors je vais répéter. Tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique. Un protocole qui n'est pas bon sur le plan scientifique n'est pas éthique. Mais tout ce qui est scientifique n'est pas obligatoirement éthique. Bon, il faut que je vous laisse de la méditation. Mais je vois que c'est un élément qui est extrêmement important et qu'on trouve là en Gésine, ce qui était assez intéressant de la part de magistrats. Et ils ajoutent même, permettent au sujet d'expérimentation de se retirer à tout moment. C'est ça aussi qui est extraordinaire. La liberté d'un sujet qui se prête à l'expérimentation est telle qu'il dit oui, mais il peut dire non 3 secondes après. Le devoir ne concerne que le chercheur. Celui qui accepte une recherche, qui accepte de s'y soumettre, peut s'y retirer à tout moment. L'Association médicale mondiale prit le relais de Nuremberg en 1964. Et vous voyez que nous sommes dans l'histoire récente, dans sa déclaration d'Helsinki, puis dans sa déclaration de Tokyo en 1975. Et dans ces déclarations, on peut lire que les progrès de la médecine peuvent imposer de recourir à l'expérimentation humaine. C'était très courageux, puisque c'était affirmé qu'on ne pouvait pas échapper à l'expérimentation, qu'il ne fallait pas faire de faux semblants, mais que le devoir du médecin et du chercheur est de protéger la vie, la santé, la dignité et l'intimité de la personne humaine. Et surtout, on voit surgir dans les principes de base un article qui est tout à fait révolutionnaire et qui rompt l'isolement du chercheur, l'extraction du chercheur du monde de la recherche en le faisant un membre de la société. Cet article 2 des principes de base vaut la peine d'être cité et médité. Le projet et la mise en œuvre, phrase importante, le projet, la pensée du chercheur et la mise en œuvre de chaque phase de l'expérimentation portant sur l'être humain doivent être clairement définis. Autrement dit, on n'est plus à l'époque où j'ai une idée, je la mets en application. Non. J'ai une idée, je la forme, je la structure et je la définis dans un protocole. Voilà un mot qui a fait fureur depuis, le protocole. Dans un protocole, Et ce protocole du chercheur, lui qui est le spécialiste, celui qui connaît son sujet, qu'est-ce qu'il va en faire de ce protocole? Eh bien, qui doit être soumis. Le mot est très fort. Autrement dit, le chercheur doit soumettre son protocole. Pourquoi? Pour avis, commentaire et conseil. Voilà aussi trois mots très forts. Le chercheur spécialiste doit recueillir avis, commentaires et conseils d'autres que lui. Pour avis, commentaires et conseils, à qui? Ben oui, mais c'est bien difficile à dire à qui. Alors que voulez-vous, en 1975, il fallait inventer un mot. Alors, à un comité. À un comité. À un comité. Ben oui, bien sûr. Comment voulez-vous dire autrement? Il fallait après que la société civile s'empare de cette réalité et, de manière très, très simple, il a été ajouté « comité destiné spécialement à cet effet ». Alors, quelques années plus tard, on a rajouté un comité d'éthique. Voilà. Et c'est comme ça que on voit que le chercheur est sorti de sa solitude et de son isolement, puisqu'effectivement, il est comptable de sa recherche. Il est responsable de sa recherche. Sa recherche ne peut pas être faite de manière isolée. Il doit quérir les avis, commentaires et conseils d'autres. Et c'est ainsi d'ailleurs que les équipes de recherche ont pu sortir de leur isolement pour faire vérifier la crédibilité scientifique et l'acceptabilité éthique de la recherche. Mais il se passait quelque chose de curieux dans le monde. Helsinki, enfin, Nuremberg 46, Helsinki 64, Tokyo 75. Mais alors, n'y avait-il que les nazis? Que se passait-il dans les laboratoires de recherche des alliés, notamment de l'Europe, du continent nord-américain? L'Europe occidentale et le continent américain, initialement, ne se sentaient pas concernés par Nuremberg. Et c'est vrai que dans aucun de ces pays, il n'y eut de politique d'État qu'on puisse comparer à la politique nazie. Mais il y eut effectivement des chercheurs et des équipes de recherche qui se sont livrés à des recherches contraires à la dignité humaine. Et là, il y eut une prise de conscience. Je pourrais en citer un certain nombre, mais juste quelques-unes. 1932, 200 Noirs, bien entendu pauvres, sont contaminés aux États-Unis par la syphilis. Non seulement c'est le scandale de Tuskegee, non seulement ils ont été contaminés par la syphilis, mais qu'en 1944, il y eut la découverte de la pénicilline. Cette pénicilline que les Américains ont apportée sur la vieille Europe, ces Noirs n'y eurent pas droit, parce qu'il fallait continuer d'observer l'évolution de la syphilis. Et ce n'est qu'au tout début des années 70, quand le scandale fut révélé, que l'expérimentation fut arrêtée et que ces Noirs furent soignés. Le président des élus d'Amérique fit d'ailleurs des excuses publiques. En 1940, des médecins de Chicago ont inoculé le paludisme à 400 prisonniers. Je pourrais multiplier les exemples, mais le prophète fut un scientifique. Ce scientifique, c'est Beecher, B-E-C-H-R. Qu'est-ce qu'il a fait, Henri Beecher? Il a publié un papier en 1966. Où ça? Dans le New England Journal of Medicine, c'est-à-dire un des plus gros journaux scientifiques médicaux du monde, peut-être le premier au point de vue facteur d'impact. Et qu'est-ce qu'il fait, Beecher? Étonnant que le rédacteur en chef ait laissé passer ça. Il a simplement colligé les recherches effectuées dans la littérature scientifique au cours des 20 à 30 années précédentes. Et là, Beecher a fait un choix. Il a isolé 20 recherches qu'il a estimé non conforme à l'éthique. Et il a envoyé ce papier au New England. Ça n'était pas un papier scientifique. Et le rédacteur en chef eut l'intelligence de l'accepter. La crise de conscience provoquée par ce papier de Beecher est extraordinaire et souvent, moi je conseille aux chercheurs et aux étudiants d'aller rechercher ce papier qu'on peut avoir en PDF et qui est un modèle et qu'il faudrait lire et relire. 1966, la prise de conscience de la recherche occidentale de ses insuffisances et de ses errements. Alors, parmi ce qu'il cite, par exemple, injection de cellules cancéreuses à des sujets âgés placés en institution, injection du virus de l'hépatite B à des sujets malades mentaux hospitalisés dans l'État de New York. Bon, bref, il faut lire ce papier extraordinaire. Et ainsi débute aux États-Unis une prise de conscience de la société et de ses responsables politiques. Car l'argumentation centrale de Beecher est que l'avancée de la science, et donc des sciences médicales, ne justifie pas d'utiliser tous les moyens, et qu'une expérimentation humaine n'acquiert pas secondairement une acceptabilité éthique. C'est-à-dire, il dit, la fin ne justifie pas les moyens. Il ne suffit pas de faire le bien pour bien faire. Ce n'est pas parce qu'on va mieux connaître l'évolution de la syphilis qu'on peut utiliser tous les moyens pour savoir comment se évolue cette maladie. Alors, la première intervention du gouvernement fédéral américain dans le domaine éthique est l'établissement, en 1967, et vous voyez, ça a été très vite, par l'équivalent du ministère de la Santé, c'est-à-dire le département de la Santé américain, des comités institutionnels d'éthique qui, dans les hôpitaux et les universités américaines, sont chargés de l'évaluation de tout projet financé par le gouvernement fédéral. Alors, bien sûr, quand on parle des États-Unis, il faut toujours savoir qu'il y a le privé, il y a le public, et que ces institutions n'agissent que dans le domaine du public, qui n'est qu'une partie, mais enfin, qui est quand même un geste exemplaire. Et c'est ainsi que naissait vraiment la bioéthique. La bioéthique, 66, et puis Potter, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, qui, peu à peu, crée le terme au début de la décennie 70. Cette décennie 70, elle voit aux États-Unis la mise en place de cours d'éthique dans les écoles de médecine. Ça n'existait pas. Remarquez, actuellement, ça reste léger. C'est mieux à Sciences Po, heureusement. La bioéthique éveille l'intérêt des théologiens et des philosophes. Et l'index Medicus, qui est la principale source de bibliographie médicale, ajoute l'entrée éthique dans l'index Medicus. Au niveau fédéral est créée en 1973 la Commission nationale pour la protection des êtres humains de la recherche biomédicale et comportementale. Et c'est elle qui produisit en 1973 le rapport Belmont. Et ce rapport Belmont, il établit les trois grands principes de recherche sur l'être humain: respect des personnes, bienfaisance, justice. Cette éthique pratique, elle est donc née aux États-Unis. En France, le premier comité d'éthique scientifique fut celui de l'INSERM. À partir de 1980, se créèrent en France quelques comités épars, et c'est le décret du 23 février 1983 qui créa, c'est le président Mitterrand, le Comité consultatif national d'éthique, chargé de donner son avis sur les problèmes moraux soulevés par la recherche dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. Il y avait quelque chose de très intéressant dans ce décret initial et qui montre que le président, dans sa rédaction, a été bien conseillé parce qu'on y trouve en gésine une indication intéressante. C'est que si tout le monde sait que le comité est chargé de donner un avis, etc., on oublie que la deuxième mission du comité était d'organiser une conférence annuelle publique sur les domaines concernant l'éthique des sciences de la vie et de la santé publique. Il avait donc là l'idée déjà que l'éthique ne pouvait rester enfermée dans un comité et devait devenir une éthique citoyenne, une éthique concernant chacun. Il y a donc d'emblée l'idée d'une mission pédagogique qui appelle à une diffusion des préoccupations éthiques grâce à des débats publics. Et c'est dans ce sillage que se sont mis en place des comités institutionnels d'éthique, surtout dans des CHU d'ailleurs, jusqu'à l'évolution récente qui s'est traduite par la création d'espaces éthiques. Espaces éthiques pour bien signifier que, à côté des comités fermés, il fallait passer vers des lieux de rencontre. Des lieux de rencontre non seulement de professionnels, mais aussi de citoyens, pour parler d'éthique. Et c'est ce qui se met actuellement en place depuis 4 ans dans notre pays. Voilà pour cette première source qui m'a occupé un peu de temps. Mais une autre source explique aussi l'irruption de la bioéthique dans la société. Il s'agit des progrès inédits faits par la médecine à partir de la Seconde Guerre mondiale. On peut les enjamber, la pénicilline 44-45, les antibiotiques antituberculeux des années 50, les neuroleptiques 52, la cortisone des années 50, les immunosuppresseurs la fin des années 50. C'est grâce aux immunosuppresseurs qu'on a pu déboucher sur les traitements du cancer, sur les greffes d'organes. Et tous ces progrès ont bouleversé les repères moraux traditionnels qui n'étaient pas équipés pour répondre aux questions concernant les conditions des dons d'organes, les indications de la réanimation, les indications de la fécondation in vitro, le caractère acceptable ou non de l'expérimentation sur l'embryon, les traitements de la douleur, etc. etc. Et aujourd'hui, ces questionnements continuent avec le champ qui s'ouvre, par exemple, à la modification du génome humain, à la médecine réparatrice, aux interfaces cerveau-machine. Ces progrès initiés après la Seconde Guerre mondiale ont rendu caduques les repères moraux traditionnels qui étaient incapables de répondre à des questions qui, tout simplement, ne s'étaient pas posées. Mais ces prises et ces crises de conscience ne concernèrent pas que les sciences biologiques. Les progrès de la chimie, de la physique, pouvaient engendrer des catastrophes humanitaires sur lesquelles les chercheurs perdaient tout contrôle. Et tel fut le cas, par exemple, des armes chimiques et des armes nucléaires. Souvenons-nous que c'est à la suite de la proposition faite par Einstein, par Szilard et par Oppenheimer au gouvernement américain de développer l'arme nucléaire que le président des États-Unis d'Amérique a réuni plusieurs centaines de chercheurs dans ce gigantesque projet qu'on a appelé le projet Manhattan. Ce projet Manhattan, lancé par Franklin Roosevelt, allait aboutir au largage de 2 bombes atomiques, l'une sur Hiroshima, l'autre sur Nagasaki. Mais les membres de cette équipe, initiée par Einstein, par Szilard, par Oppenheimer, les membres de cette équipe ont compté 20 prix Nobel. C'était des scientifiques de très haut niveau. Einstein, qui avait fui l'Allemagne nazie pour les États-Unis, était pourtant un pacifiste, rêvant sans doute de faire de l'arme nucléaire une menace seulement dissuasive. Malgré sa lettre à Roosevelt, il ne participa pas au projet Manhattan. Il n'entra pas dedans, lui, Einstein. Il avait lancé, mais il n'entre pas. Et il regretta sa lettre, qui fit quand même de lui un aspirateur de la guerre atomique. Oppenheimer, qui fut le patron de cette myriade de chercheurs, rongé de remords, démissionna de son poste de directeur scientifique du projet Manhattan le 16 octobre 1945. Szilard, qui était un disciple d'Einstein, qui a écrit la lettre sous l'inspiration d'Einstein, lança une pétition pour que la bombe ne soit qu'une arme dissuasive. Il démissionnera lui aussi du projet Manhattan. D'autres chercheurs exprimèrent aussi leur émoi. Ainsi, on voit que la découverte de la radioactivité par Marie Curie montre que le chercheur est loin de pouvoir maîtriser les applications de ses recherches. Et c'est ainsi, à travers ces crises et ces prises de conscience dont j'ai donné trois grandes sources, que les chercheurs ont été invités à une éthique de la responsabilité. En effet, la recherche scientifique est ainsi appelée, et j'allais dire provoquée, à repenser ses objectifs et ses limites. Il a longtemps été d'usage de distinguer les techniques qui relevaient de la praxis, donc pratique et particulière, de la science qui relevait de la théoria, donc théorique et générale. Les techniques, c'est vrai, répondant à des besoins des hommes, ont précédé la science. La géométrie des Égyptiens n'était que des techniques d'arpentage des terres. On a su et pu construire des châteaux, des cathédrales, des ponts, creuser des canaux sans posséder de savoir scientifique ou en en ayant quelques rudiments. La science, elle, répondait d'abord, disait-on, au besoin de comprendre pour comprendre. Il était d'usage en philosophie des sciences de dire qu'elle est un savoir désintéressé. Aujourd'hui, quand on relit ce qu'écrivait Jacobi, grand mathématicien du début, de première moitié du XIXe siècle, il écrivait « Le but unique de la science est l'honneur de l'esprit humain ». Et Poincaré, le grand mathématicien, ajoutait « La recherche de la vérité doit être le but de notre activité, c'est la seule fin qui soit digne d'elle ». Je ne sais pas si pendant ces quelques jours, vous avez cherché la vérité, quoi. Si ça a été votre obsession. Est-ce que ces paroles de jadis nous semblent encore d'actualité, cette science pure à côté des techniques? Eh bien, cette distinction, vous le savez bien, s'est effacée. La recherche pure génère la recherche appliquée. Les sciences sont devenues des technosciences. Et la science n'est plus une activité représentationnelle. Elle se projette dans le monde et elle est même essentiellement axée sur la transformation du monde. La science moderne ne vise plus à expliquer le monde, elle vise à le transformer. Le chercheur n'est plus un explicateur, c'est un acteur du monde. Et l'accent mis sur la valorisation de la recherche dans nos universités, nos organismes de recherche, en est une illustration éloquente. Valoriser la recherche, ayez des brevets, enfin bon. Comme le cours d'une rivière, la recherche a un aval qui est sa projection dans le monde. Et elle a un amont, ce qui l'inspire et qui pose alors le problème de savoir si la recherche doit s'assigner des limites, ce qui est aussi un mot révolutionnaire. La recherche doit-elle s'assigner des limites? Par exemple, est-il éthiquement acceptable, comme l'a fait la Grande-Bretagne en 2007, de créer des embryons cybrides en introduisant le noyau d'une cellule humaine, 2N chromosomes, dans le cytoplasme énucléé d'un ovocyte animal? Alors c'est vrai qu'on pourrait certes disposer là de matériaux abondants pour étudier le développement des cellules souches, ou même disposer d'embryons porteurs de maladies génétiques qu'on pourrait examiner tout à loisir. Quel est le statut de ces embryons dont le patrimoine génétique nucléaire est humain, mais dont le fonctionnement énergétique assuré par les mitochondries du cytoplasme est animal? Et défendre cette procédure expérimentale, comme on a pu l'entendre par des personnes éminentes, mais que je ne citerai pas, en disant quoi? Que ces embryons ont une survie courte. Suffit-il à régler le questionnement éthique? Ce raisonnement utilitaire, comme si d'emblée, certains n'allaient pas être préoccupés par le fait de savoir comment ces embryons s'hybrident, les prolonger de plus en plus n'est-ce pas là esquiver le cœur de la problématique éthique pour une argumentation purement utilitaire? Et pourtant, cette question de limite agitait déjà Francis Bacon, qui, au XVIIe siècle, rêvait dans son roman, peut-être vous donner le goût de le lire, La Nouvelle Atlantide. Et dans ce roman, La Nouvelle Atlantide, Bacon rêvait d'un institut dont le but serait la découverte des causes et la connaissance de la nature intime des forces primordiales et des principes des choses en vue d'étendre les limites de l'empire de l'homme sur la nature entière. Il n'y a pas de limite. Une telle assertion annonce l'évacuation par la science de toute préoccupation éthique. Une science qui refuse les limites évacue toute préoccupation éthique, puisqu'elle ne se questionne pas, et équivaut à assimiler le bien au progrès aveugle de la science. Mais les conséquences possibles de la recherche sur l'humanité invitent le chercheur à une anticipation. Et aujourd'hui, la nouveauté, c'est que le chercheur est invité à une anticipation non pas seulement techno-scientifique, mais aussi éthique de sa recherche. Et c'est ce qu'on devrait, me semble-t-il, demander à tout chercheur qui dépose un dossier de valorisation. Voilà les conséquences possibles. Mais en quoi je vais changer le monde? Quelles vont être les conséquences sur le monde? C'est cette capacité d'anticipation qui est aujourd'hui demandée, capacité d'anticipation éthique. Ce qui revient à s'interroger sur le fait de savoir si les conséquences d'une recherche peuvent tendre à faire croître ou à diminuer en l'homme son humanité. Est-ce que ce que je vais faire peut faire croître en l'homme ce qu'il a d'humain? Et c'est ainsi qu'il peut attester de sa responsabilité. Comme citoyen du monde, comptable du futur que le présent de sa recherche peut faire advenir. Et c'est d'ailleurs tout le sens des travaux de Hans Jonas, J-O-N-A-S, dont un de ses livres le plus extraordinaire, c'est ceci qui s'appelle « Le principe responsabilité ». Jonas écrivait que le premier commandement doit être l'existence de l'humanité. On reprend un peu ce que disait Potter. « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. » Ou encore, « L'existence de l'humanité, cela veut simplement dire que des hommes vivent et qui vivent bien. » Cette éthique de la responsabilité a pu parfois être présentée par certains comme une éthique de la peur. Oui, si vous avez peur des progrès, alors je ne sais pas si le mot est bien choisi, car il me semble que le mot peur ne convient pas, car la menace est souvent imprécise. Et plutôt que peur, il faudrait sans doute replonger aux racines de la philosophie et évoquer plutôt une angoisse éthique. Non pas l'angoisse paralysante, mais l'angoisse qui, tout à la fois, exprime la prise de conscience des enjeux. Oui, c'est pas rien, il peut se passer des choses. Mais en même temps, une angoisse qui est un moteur pour l'action. Et on inverse ainsi la proposition de Kant. Kant disait « tu veux, donc tu peux ». Et Hans Jonas dit « non, prends d'abord conscience de ta puissance. Et dis-toi que ta puissance expose à des dangers. Et c'est de ta puissance que doit surgir ton vouloir. C'est la prise de conscience de ta puissance, de ton pouvoir, de ta capacité que doit surgir un vouloir. C'est-à-dire une appréciation des conséquences sur l'humanité et la mise en œuvre des moyens d'action pour que ces conséquences soient limitées ou n'existent pas. Il s'agit de passer du pouvoir au devoir et de faire du pouvoir la racine du « on doit » de la responsabilité. Mais la question des limites se pose aussi de manière plus subtile quand il s'agit de prendre position sur le fait de savoir si la science pourra tout expliquer de l'homme. En somme, si elle englobera la philosophie et la métaphysique, qui ne seraient que des étapes de l'évolution de l'humanité dont l'obscurité sera levée quand la science parviendra à son apogée. Auguste Comte assigna 3 étapes à l'humanité, vous vous en souvenez, théologique, métaphysique et positif. Mais il assigna, Auguste Comte, dans sa sagesse, des limites à la science. Il écrit « Renoncer à chercher l'origine et la destination de l'univers. Renoncer à connaître les causes intimes des phénomènes pour s'attacher uniquement à découvrir leurs lois effectives, leurs relations invariables de succession et de similitude. » C'est ça tout l'esprit du positivisme. Et pourtant, la modernité ne va pas dans ce sens. On a vu des tentations gigantesques surgir dans le courant neurophilosophique, par exemple, de Patricia Churchland, pour laquelle l'esprit, donc l'homme, est l'équivalent du cerveau. Peut-être, peut-être pas. Mais de quel droit la science peut-elle dire ça? Dire, par exemple, « je pense » équivaut à dire « mon cerveau pense ». Donc, je ne sais pas si vous dites « vous, mon cerveau pense », si vous dites « je pense ». Alors, si vous dites « je pense », donc ça n'a pas de sens, si on pense que c'est son cerveau qui pense. Et d'ailleurs, ceci conduisait Paul Ricoeur à se demander si le cerveau pense au sens d'une pensée qui se pense. Vous réfléchirez à ça, mais c'est très important. Vous trouverez un magnifique florilège de corps à corps comme ça dans le très beau livre publié chez Odile Jacob, « La nature et la règle qui met face à face Paul Ricoeur et ce chercheur dont le nom va me revenir, mais « Tout acte manqué est un discours réussi », c'est l'homme. Celui qui a écrit « L'homme neuronal hein. », comment ?« Changeux », voilà, « Changeux », le cerveau pense. Le cerveau, eh bien très bien, monsieur Changeux, mais c'est pas votre science qui permet de vous dire ça. Vous êtes un philosophe, c'est votre droit de dire ça. Mais laissez-nous tranquilles avec ça. Je ne sais pas quel orgueil de dire « Aujourd'hui, mon cerveau pense ». Peut-être, peut-être, peut-être pas. Et oui. C'est dans ce sens d'ailleurs que Karl Jaspers écrivait « Si quelqu'un pense voir clair en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher. Si quelqu'un prend les informations des sciences pour la connaissance de l'être même dans sa totalité, c'est qu'il s'abandonne à une superstition scientifique. Philosopher, c'est connaître la modestie profonde qu'imposent les limites du savoir scientifique possible. » Oui. Les connaissances ont des limites, mais pas la pensée humaine. La science aurait-elle l'explication de la pensée de l'homme? Le domaine de la science est la connaissance. Et après la connaissance, il reste toujours la pensée. Peut-être que certains chercheurs veulent en faire leur objet. Alors, pour résumer, parce qu'il faut bien arriver à conclure, vous pensez que ce n'est pas une vraie conclusion, c'est juste une ponctuation, un soupir. La clé de l'éthique scientifique tient bien sûr d'abord à la qualité scientifique de la recherche, au motif, je l'ai dit, que tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique. Mais la clé de l'éthique scientifique est aussi dans la prise de conscience que tout ce qui est scientifique n'est pas nécessairement éthique. Une éthique scientifique conçue comme une éthique de la responsabilité, prend acte de la puissance de la science, donc du chercheur, mais aussi en regard de la fragilité de la vie. C'est cet affrontement qui suscite la réflexion éthique. Puissance et fragilité de la vie, de l'homme, de son environnement, de l'homme comme être et comme être au monde. C'est la puissance de la science qui trace le devoir du chercheur et engage sa responsabilité. Mû par une angoisse légitime, il est invité à évaluer ses méthodes, ses objectifs et les conséquences de sa recherche au regard de la préservation de la vie, c'est-à-dire du respect de la dignité de la personne humaine. Car il doit savoir que le risque majeur, quel est-il ? Ce risque n'a pas changé depuis le début de l'humanité, ou pour faire plus court, depuis l'Antiquité grecque. Sur le fronton du temple de Delphes, il y avait deux maximes. Gnotis eoton, en grec, connais-toi toi-même, il y en avait une autre, medagan, en grec, qui veut dire rien de trop. Rien de trop, car pour la tragédie grecque, pour Sophocle, pour Antigone, pour Édipe, pour Sophocle qui nous a décrit ses héros, on sait bien que le risque majeur de l'être humain est la démesure. La démesure, c'est hubris, en grec, l'hubris qu'on traduit souvent par orgueil et qu'on ferait mieux de traduire toujours par démesure. La tragédie grecque nous a montré que le destin des héros sombre toujours en raison de leur démesure. Puisse la science retrouver l'humilité de la quête éthique et échapper à la démesure qui risquerait de la faire sombrer.
Merci beaucoup. On a peut-être quelques minutes pour prolonger cette intervention passionnante qui va mériter quand même quelques réflexions. La présentation de M. Gilles sera disponible sur le site de l'Espace Mendès France, ce qui nous permettra à tous d'en réécouter quelques éléments importants. Est-ce que vous avez des questions et que certains parmi vous voudraient prendre la parole? Oui.
Je vous remercie tout d'abord pour les grandes qualités de votre exposé et les points les plus importants, je pense que vous les avez signalés. Enfin, c'est tout au moins mon humble impression. Je ne suis pas un chercheur moi-même, enfin, un tout petit peu seulement. Voilà. Je vous avais bien fait, à mon avis, de préciser que, enfin préciser, le mot convient mal, disons que la menace qui pèse sur la recherche est une menace imprécise, parce que dans toute recherche il y a des imprévus, des petits grains de sable, des choses qui font que tout d'un coup on voit autre chose que ce qu'on cherchait au départ et qui font des bifurcations. Henri Poincaré a étudié les bifurcations, ce n'est pas rien. Les bifurcations, ça veut dire qu'on part dans une direction qui n'était pas prévue au départ, et à ce moment-là, c'est là que la démesure peut intervenir, et c'est là qu'est le danger, à mon avis, enfin, entre autres dangers, c'est un danger important. Voilà. Bon, est-ce que vous pouvez éventuellement préciser un peu plus encore dans cette direction-là, ou est-ce que ce discours vous satisfait ? Je ne sais pas, peut-être.
Non, ça me satisfait tout à fait. La seule précision, peut-être, qu'il faut donner, c'est que le chercheur transforme le monde. Il est créateur aujourd'hui dans le monde, mais comme tout créateur, et il en est même de l'artiste, sa création lui échappe. On l'a vu de manière terrifiante dans l'histoire de la bombe atomique, où finalement, le produit de la recherche peut échapper aux chercheurs et être pris par le politique, c'est-à-dire par ceux qui ont en charge les affaires de la cité et qui en font ce qu'ils veulent, contre la volonté du chercheur. Et précisément, l'angoisse éthique auquel le chercheur est appelé aujourd'hui, et j'emploie ce mot angoisse non pas en raison de ma formation, mais plutôt en pensant à l'angoisse philosophique, celle de Heidegger. Il y a beaucoup de travaux sur l'angoisse éthique aujourd'hui. C'est de dire, qu'est-ce que ma recherche peut devenir un jour ? C'est ce travail qu'on peut appeler, en neuropsychologie, la mémoire du futur, cet exercice de mémoire du futur auquel on est convié, de mémoire prospective, mais plus que ça, parce que la mémoire du futur, elle provoque aussi l'imagination, les représentations, aller le plus loin possible en disant je travaille là-dessus et quelles sont toutes les possibilités. Et je pense que la citoyenneté accomplit des chercheurs parce qu'eux ont la capacité de le faire, me semble-t-il, de manière expertale. C'est non seulement de décrire la valorisation, j'allais dire universitaire, on va la valo, machin, les brevets, tout ça, peut-être. Mais c'est aussi de dire qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça, qu'est-ce que ça peut devenir un jour. Voilà. C'est ça qui me semble aujourd'hui capital. C'est le chercheur qui a conscience que ce n'est pas seulement son labo, sa carrière, la publication, les machins, la notoriété, son intérêt intellectuel, sa curiosité et tout ça, mais qui a aussi sa fonction dans le monde. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ce que je trouve ? Qu'est-ce qu'on peut faire un jour de mes travaux ? Voilà. Et c'est évidemment, il y a les bifurcations du chercheur. Il trouve ça, puis ça va. Et puis, il y a aussi, évidemment, le saisissement de la recherche par d'autres que lui. Voilà. C'est ça, je crois. Les deux aspects.
Oui, moi j'ai pas vraiment de questions, mais plutôt un questionnement. Vous avez très bien pris l'exemple de l'histoire de la bombe atomique. À cette époque, en fait, vous l'avez dit, les plus progressistes au monde ont finalement, d'une part, au niveau des chercheurs, participé à la mise au point de l'utilisation de l'énergie atomique. Ils ont même, se sont félicités de la mise au point de cette bombe atomique, parce que c'était, l'histoire est comme ça, ça paraissait quelque chose qui pouvait permettre effectivement éventuellement de soit de finir la guerre, soit de dissuader pour d'autres guerres. Le problème, c'est qu'en fait, pour le chercheur, en gros, jamais il sait ce que va devenir son travail. On peut prendre un autre exemple beaucoup plus récent avec l'Internet. Pour ceux qui ont découvert les bases physiques de l'électronique, etc., ceux qui ont réussi à développer les communications sur Internet et tout ça, comment peuvent-ils avoir une idée que à la fois c'est un élément extrêmement positif. Maintenant, on peut discuter avec ses collègues à l'autre bout du monde sans problème. C'est un énorme potentiel, je dirais, positif pour l'humanité. Et en même temps, peut-être un danger mortel puisque ça peut potentiellement aller vers la surveillance de chaque citoyen à son insu. Et donc, il est impossible à ceux qui ont mis au point, enfin, qui ont développé l'électronique il y a, 50 ans, même avant peut-être, de savoir que ce qu'ils ont découvert là allait donner à la fois des potentialités et des choses potentiellement très, très négatives pour l'humanité, parce que la surveillance, évidemment, de chaque citoyen, ça serait la négation, justement, de l'humanité. Et donc, c'est difficile de voir comment le chercheur pourrait se rendre compte à l'avance. Bon, bien sûr, il essaye d'être responsable, de voir, comme vous l'avez précisé, les potentialités de ces travaux, mais c'est quand même difficile de prévoir. C'est pour ça que moi, ma réponse à cette question, comment faire pour éviter que ça aille vers des choses négatives, je ne la vois pas tellement au niveau du chercheur, ou alors c'est le chercheur citoyen, mais plutôt au niveau de l'intervention, vous l'avez dit d'une certaine façon, l'intervention des citoyens dans la société, et y compris dans les décisions sur quelles sciences on fait, etc. Mais je ne la vois pas spécifiquement sur les chercheurs, même si on... Ouais, c'est peut-être pas si bien que ça, même si on peut penser que le chercheur a des capacités plus que d'autres à voir ce qui se passe, mais j'y crois pas trop.
Non, je pense que il faut pas se méprendre hein, sur ce que je dis, ce n'est pas le chercheur seul, c'est précisément l'interaction chercheur-société, bien entendu. Hein. C'est tout à fait évident. Hein.
Moi, je voudrais intervenir sur deux points. Le premier, c'est une toute simple charade qui met le chercheur dans une position paradoxale qui n'est pas toujours facile et source de souffrance. C'est la charade qui cherche trouve, mais on ne trouve que ce que l'on cherche et on ne cherche que ce que l'on connaît. Or, les chercheurs, il est bien soumis à ce paradoxe. Il cherche quelque chose qu'il ne connaît pas. Et la société tout entière, pour aller vite, il dit la société tout entière, le pousse à trouver. C'est une première réflexion. Enfin, une première... réflexion. La deuxième, c'est que ce que le chercheur trouve n'est pas toujours opportun. Et il n'y a de vérité qu'opportune. C'est pour moi qu'il le dit. Hein, c'est bon. Et c'est clair que, par exemple, dans un tout à fait un autre domaine que le domaine de la médecine et de la recherche scientifique, la découverte du fonctionnement par hydrogène des véhicules à moteur, c'est un danger très, très grave pour les pétroliers. Et comme par hasard, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est une trouvaille, c'est une pas du tout opportune à l'heure actuelle.
Oui, l'opportunité, c'est l'économie, la politique.
Si je peux me permettre juste de rebondir sur cette dernière réflexion, la politique, moi, il y a quelques points qui m'ont un petit peu, ou en tous les cas que j'ai relevé, qui pourraient être inquiétants dans la présentation que vous nous avez faite. La modernité ne va pas toujours dans le sens qu'il conviendrait pour satisfaire à la bioéthique ou à l'éthique de façon générale. En plus de cela, nous confions les règles ou les cadres de cette bioéthique aux politiques, alors que l'éthique doit se préoccuper du futur de l'humanité. Le politique est-il le mieux placé pour s'occuper du futur de l'humanité, alors qu'il n'est parfois motivé que par sa propre... Ce n'est pas moi qui l'ai dit.
Survie.
Sa propre survie, voilà. C'est à lui que nous confions ce cadre par la mise en place de lois d'éthique ou de lois de bioéthique, c'est comme cela que ça s'appelle. Est-ce le plus efficace, est-ce le plus prudent que de confier ce cadre aux politiques ? Et si on ne le confie pas aux politiques, à qui allons-nous le confier ? C'est là, peut-être aussi la question, je ne sais pas. Comment est-ce que le politique prend place dans cette réflexion ou doit prendre place dans cette réflexion aujourd'hui ?
Je pense que nous avons à faire de très grands progrès en termes d'exercice démocratique. Car en vérité, aujourd'hui, de quoi s'agit-il ? On fabrique des lois dites de bioéthique. En fait, ce ne sont pas des lois de bioéthique. Ce sont des lois qui traitent de problèmes, qui traitent de questions posant des problèmes éthiques. Et par le raccourci, les politiques disent ce sont des lois de bioéthique. Non, puisqu'elles répondent. Donc, elle vise à établir des règles. Elle se situe dans le domaine de la morale, de la déontologie, c'est-à-dire de réponse. Et le plus grand danger, effectivement, des lois, c'est la confusion du légal et du moral. Autrement dit, le danger des lois qui, par essence, ne traitent que du général, alors que l'éthique traite obligatoirement aboutit toujours au singulier de la personne, le danger des lois est de faire croire que c'est légal égale c'est moral. Et d'ailleurs, on voit même parfois certaines tendances dans des enseignements dits de bioéthique à décliner les conditions légales pour, je ne sais pas moi, par exemple, expérimentation sur l'embryon, pour dire que c'est éthique. Non, c'est peut-être éthique, ça ne l'est peut-être pas. Et chacun peut avoir une opinion sur le sujet. Le danger des lois, c'est la déconscientisation du citoyen. Alors, le problème, bien sûr, des lois, et pourquoi nous intéresse en éthique, c'est pas évidemment pour tous les alinéas qu'elles offrent, toutes les conditions, mais c'est surtout qu'est-ce qu'elles disent de l'homme. Autrement dit, une loi, qu'est-ce qu'elle dit de l'homme? Quelle est l'anthropologie de la loi? Et aussitôt, quand on dit cela, quelle est l'anthropologie de la loi? La vraie question est aujourd'hui, est-ce que c'est une anthropologie parlementaire ou vraiment de la France? Parce que si la démocratie, c'est le droit de vote, et que les députés votent avec leur conscience, je veux dire, ça ne m'intéresse pas. Moi, que mes députés aient une bonne conscience, mais leur conscience, je m'en fiche. Il faut imaginer aujourd'hui une éthique citoyenne, c'est-à-dire une éthique qui procède par des débats publics. Et je vais donner un exemple. Voilà, je vais donner un exemple concret pour bien montrer ce que je veux dire, et un exemple récent. Il vient de sortir une loi sur la modernisation du système de santé. Bon. Deux députés ont ajouté des modifications fondamentales aux lois de bioéthique qui ont été votées en 2011, alors qu'il est précisé que toute modification des lois doit d'abord faire l'objet d'un débat public pour la bioéthique. Et qu'est-ce qu'ils ont ajouté ? Ils ont ajouté qu'il fallait revoir de manière plus précise les conditions de prélèvement d'organes sur les sujets décédés. Autrement dit, aujourd'hui, la France, un pas vide, amorphe, a laissé passer deux conditions qui sont contraires à l'anthropologie française, c'est-à-dire que s'il y a un accident et qu'on est amené en état de coma dépassé, on est prélevable sitôt qu'on n'a pas fait connaître de son vivant son refus par l'inscription sur le registre national des refus. Parce que trop de familles refusent. Méfiance vis-à-vis des familles et faisant en quelque sorte du corps un bien nationalisé, un bien public. Alors, un certain nombre de députés qui ont participé aux lois de bioéthique se sont insurgés en catimini, mais aucun n'a porté l'estocade. Parce qu'en fait, dans les questions actuelles de la France, c'est considéré sans doute comme secondaire, on a autre chose à penser. Or, ces dispositions qui reviennent à la loi Caillavé des années 70 est une position qui a été prise contre la plupart des médecins préleveurs, c'est-à-dire que quelqu'un perd son fils, sa fille, son compagnon, sa compagne, qui a 3 ans, 8 ans, 19 ans, 32 ans, il n'a pas fait connaître son inscription sur la liste sur, de refus, alors parlez donc du don d'organes, voyez, à Noël, dites donc, oui, est-ce que vraiment, si je meurs, etc. Oui. Inscrivez-vous, très peu de Français s'inscrivent sur la liste du refus. Il est prélevable. Moi, un grand nombre d'équipes de médecins transplanteurs m'ont dit, nous n'appliquerons pas cette loi, nous ne pourrons pas prendre un organe si la famille est contre. Avec une cause de 8 ans, on va passer par-dessus une mère en la culpabilisant, oui, votre enfant est morte, mais vous pourriez sauver, etc. Et vous savez, la loi le dit. La loi le dit, nous l'avons votée. J'estime que cette disposition est contraire à l'anthropologie française. Pourquoi elle est contraire à l'anthropologie française? Certes, Nul n'est propriétaire du corps du défunt. C'est vrai. Pas la famille, pas l'État. Mais qui est dépositaire du corps du défunt? Qui pleure le défunt? Qui accompagne le défunt? Qui a souffert pendant sa maladie? Qui est bouleversé? De quel droit deux députés ont fait voter cela aujourd'hui au Parlement français? Cette loi est contraire à l'anthropologie. Eh bien, je crois que, comme disait le philosophe Alain, la dignité, c'est de dire non à certaines lois. Nous n'acceptons pas certaines lois. Et Monsieur Touraine, qui l'a proposé, qui est lui-même transplanteur, néphrologue à Lyon, et en plus député, bon, très bien, eh bien, je m'inscris avec beaucoup d'autres contre le caractère anti-anthropologique de cette disposition. Et c'est vrai que nul détenu d'obéir à une loi inique et beaucoup de... Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on veut ? Obtenir plus de prélèvements, vous voyez ? Ah oui, oui, non, mais vous savez... Non, il n'a pas inscrit, vous savez, vous ne pouvez pas vous opposer. C'est-à-dire, on va faire pression sur des gens en état de faiblesse. Eh bien, une démocratie doit d'abord débattre de cela publiquement. C'était inscrit dans les textes, et à travers une loi où il y a plein de dispositions, on ajoute ces dispositions, mais dans l'indifférence aussi du peuple. C'est ça. Bien sûr qu'il y a eu des articles, des montées au créneau, etc. Mais en général, effectivement, il n'y a pas eu vraiment de mouvement de pensée. La citoyenneté, c'est cela, voilà, c'est ça. Et le problème, évidemment, de la loi, c'est cette distance qu'elle peut faire créer entre le vécu et la réalité. Et qui fait qu'un certain nombre de dispositions... en termes de loi dite de bioéthique, ne seront plus applicables. Et que même un certain nombre de ceux qui l'ont voté en sont aujourd'hui persuadés. Voilà. J'ai dit ça avec beaucoup de franchise, parce que je le pense. Et puis, bon, je suis arrivé à l'âge où je peux dire ce que je veux. Quand on est émérite, on peut dire ce qu'on veut. Mais j'estime qu'on est là dans l'exemple même de la confusion à ne pas faire entre le légal et le moral. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que si le légal devait être obéi en tout, y compris quand il se mêle du gosse qu'on peut perdre, du compagnon qu'on peut perdre, eh bien, le légal n'a pas de valeur morale à imposer au peuple. Il faut laisser le peuple décider. Il ne faut pas procéder par pression, il ne faut pas procéder par culpabilisation. Et donc, effectivement, il y a là un devoir de citoyenneté. Mais quand il y aura une éthique citoyenne, c'est vrai, quand les gens auront conscience que c'est leur destin même, leur valeur même, qu'on sacrifie avec des préoccupations nobles, bien entendu, les préoccupations sont nobles, c'est obtenir beaucoup d'organes à greffer. Mais j'estime que pour obtenir beaucoup d'organes à greffer, il y a une pédagogie à mettre en œuvre, une pédagogie du cœur, et qu'on peut choisir autre chose que cette manière qui sent le répressif et l'obligé au lieu de passer par un autre type de pédagogie. Et curieusement, voyez-vous, et c'est là où on sent aussi la difficulté d'anthropologie, et je vais donner un deuxième exemple, après je m'arrêterai, parce que je ne veux pas vous amener à la Révolution, mais quand même, la France a été un des derniers pays du monde occidental à admettre qu'on pouvait donner son rein à un ami. C'est-à-dire que la France a toujours dit le don de rein entre vivants, ça peut se faire que dans la famille biologique. À la rigueur, l'époux et l'épouse. Ce qui veut dire, et ça c'est l'obsession française, que la famille biologique est garante du désintéressement. Vous connaissez la phrase de Sacha Guitry, j'aime à la répéter, une famille unie, on voit bien qu'ils n'ont pas hérité. Enfin, qui a inventé le désintéressement dans les familles biologiques? Et qui n'a pas encore compris que le vrai enfant, c'est l'enfant adopté? Que l'enfant biologique n'est notre enfant que parce qu'on l'adopte. Et que la plénitude de la filiation, elle est dans l'adoption. Elle est dans ce mouvement d'amour. Que l'enfant soit du même sang ou qu'il n'ait pas le même sang, peu importe. Et il a fallu attendre 2011 pour inventer on peut donner son rein à quelqu'un lié affectivement. Mais sur un plan juridique, et je m'arrête là, on dit, oui, mais il faut que ce soit un ami depuis au moins 2 ans. Vous avez compté la durée de vos amitiés, mais est-ce que c'est possible d'écrire cela? Eh bien, c'est notre loi. Et c'est à autre chose qu'il faut appeler. Mais la loi, elle a besoin de cadre, de précision. Et tant que ces lois dites de bioéthique se plaqueront sur un monde d'indifférence, on continuera à subir cette espèce de couvercle qui, maintenant, appelle quand même une respiration. Et cette respiration, on en a les moyens, c'est vrai. Les débats publics qui ont été organisés pour la loi sur la fin de vie, par exemple, ont été très productifs. Je me souviens d'un débat de vie à Bellejoine, à Poitiers, où vraiment sont venues 350 personnes, 50 personnes étaient dehors. Elles ont parlé et les gens ont à dire des choses. Les citoyens pensent, ils sont capables de penser. Mais il faut les mettre dans le coup. Alors ça commence, mais c'est trop timide. Et il suffit de 2 députés, une loi de modération sociale pour que tout à coup on gâche tout. Eh bien, c'est un peu dommage. La démocratie, ce n'est pas que le droit de vote. Et l'éthique, elle a besoin de cette immersion dans la conscience citoyenne. Voilà, j'espère que je ne me suis pas fait trop d'ennemis. Hein, mais...
Bonsoir. La réflexion, l'échange, l'espace Mendès-France y contribue en organisant ce genre de soirée. Donc ça va dans le bon sens. Je prends le micro que m'a tendu la personne par rapport à la question des personnes politiques élues. Je me demande s'ils ont le pouvoir, parce que, surtout s'ils cumulent les mandats, ils n'ont peut-être pas le temps de se documenter pour avoir un avis relativement neutre et éthique. Et j'ai l'impression que les décisions, elles sont prises en écoutant leurs conseillers, qui sont des fois les conseillers d'entreprises privées. Je trouve que ça manquait un petit peu dans votre intervention de parler des enjeux financiers. Hier, par exemple, à l'Union européenne... plus ou moins Union européenne, a été accordé pour 18 mois de plus la commercialisation du glyphosate, herbicide, à un feu vert, si on peut appeler ça vert, pour 18 mois. À charge aux chercheurs, dans les 18 mois prochains, tout en ayant la commercialisation du produit, de faire des recherches pour voir si c'est vraiment cancérigène. Quelle est la différence entre le glyphosate et une Twingo ou une Porsche? La différence, c'est qu'une Twingo et une Porsche, pour la mettre sur le marché, il faut que Renault ou Porsche fassent des essais pour voir si c'est une voiture fiable qui ne va pas tuer les personnes qui vont être dedans. Et ils font des crash tests, entre autres. Ils envoient sur des murs. Pas avec des prisonniers, pas avec des noirs ou pas avec des chômeurs, avec des mannequins morts. Enfin, pardon, avec des mannequins en peluche. Par contre, pour le glyphosate, mais aussi pour les nanoparticules, et aussi peut-être pour le nucléaire, on met sur le marché, on nous met devant le fait accompli, et là, il n'y a pas de participation citoyenne qui vous semble être un aspect important. Et je pense qu'effectivement, il faut insister sur l'association des habitants à des réflexions, mais il n'y a pas de participation. On nous met devant le fait accompli avec des nanoparticules dans de plus en plus de produits, dans les M&M's pour qu'il y ait une jolie couleur dessus, dans les chaussettes tachées chez Decathlon pour qu'on pue moins des pieds, mais les chaussettes quand on les lave, l'eau part à la station d'épuration, à la rivière, les poissons, qu'est-ce que ça a comme effet sur eux? Et puis en aval, on repompe cette eau pour la rendre soi-disant potable et on avale ces nanoparticules. Donc dans quelques années ou décennies, on nous dira que les nanoparticules, c'est peut-être avec quelques inconvénients, mais on le sent déjà. Donc, je me demande pourquoi, dans certains cas, avec des enjeux économiques forts, hein, quand vous disiez, je n'étais pas d'accord avec vous, quand vous disiez que le chercheur est responsable comptable de sa recherche, les chercheurs de chez Servier, pour le médiateur, je ne sais pas si ils ont des comptes à rendre, par exemple. Donc, et puis là où j'étais pas d'accord avec vous non plus, mais c'est peut-être lié à nos formations ou nos déformations professionnelles, c'est quand vous disiez que tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique. Je pense entre autres à l'éducation avec des parents ou avec des instituteurs, institutrices, qui font pour certaines et certains d'entre eux, avec le plus de soins qu'ils peuvent, un travail éthique d'éducateur, et ce ne sont pas des scientifiques. Il y a des parents qui sont balayeurs et ils ont de l'éthique dans leur comportement et dans leur choix vis-à-vis de leurs enfants. Donc je ne pense pas que que votre affirmation, enfin, elle mériterait d'être discutée, mais il est 22h30. Donc je voudrais que vous reparliez un petit peu des contraintes ou des enjeux financiers qui font que, ben, pour certains chercheurs, ce n'est pas évident d'être relativement neutre et éthique.
Oui, très, très rapidement. Bon, en ce qui concerne les parlementaires, il ne faut pas qu'il y ait de méprise. Non, je pense que certains connaissent très bien l'éthique. Non, vraiment très bien. Ça, c'est clair. Le problème, c'est au nom de quoi ils agissent. C'est ça, le problème. Et j'ai parlé de la conscience, hein, du parlementaire qui est insuffisante. Si, elle est très bonne pour eux, mais c'est comment on fait une démocratie, comment on fait une citoyenneté. Bon. Et il y a un noyau de parlementaires qui, effectivement, a de très grandes connaissances en éthique. Ce n'est pas ce problème-là que je discute, c'est, je m'en suis expliqué, hein, la question anthropologique. Alors, en ce qui concerne, quand je dis le chercheur est comptable et responsable, oui, c'est son honneur, mais je ne parle pas, et ça je l'ai dit bien au début, de la responsabilité juridique, elle ne m'intéresse pas, celle-là. On est tous comptables. Hein, l'éthique de la responsabilité, c'est on est tous comptables de ce qu'on fait. Voilà. Nos actes nous reflètent. Et c'est dans ce sens-là. Enfin, en ce qui concerne tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique, je maintiens cette affirmation qui est parce que ça ne concerne que les protocoles scientifiques. Bien entendu, ça ne concerne pas l'action de la vie quotidienne. Je ne dis pas qu'élever ses enfants, ça doit être scientifique. Loin de moi cette idée. Non. Je dis simplement un protocole qui est présenté de recherche, s'il n'est pas scientifique, s'il n'a pas les caractères qui permettent de le déclarer scientifique, n'est pas éthique. Mais ça ne concerne pas le reste. Et pour le reste, les parents et tout ça, je suis ô combien d'accord avec vous. Alors, en ce qui concerne les enjeux financiers, oui, bien sûr, ce sont des enjeux parmi d'autres. Vous avez parlé là de cet herbicide, il va être interdit. Bon, après, on repousse l'interdiction. Mais il faudrait, je crois, développer des campagnes de sensibilisation des citoyens pour qu'avant que ce soit interdit, ils n'en achètent plus. Puisqu'on sait que ce produit ne s'élimine jamais du sol. Bon. C'est évident. Alors, il y a des intérêts, évidemment, financiers, mais derrière les intérêts financiers, et on pourrait multiplier les exemples, il y a des intérêts humains. Bon. Par exemple, on arrête les sacs en plastique. Il y a aujourd'hui des entreprises qui ferment et des gens au chômage parce qu'on arrête de donner des sacs en plastique. Il eût mieux valu avoir une société adulte qui peu à peu décroît son utilisation des sacs pour que les gens aient le temps de se remettre et non pas tout à coup. Voilà une disposition. Et vous voyez, il faut toujours se méfier des relations juridiques. Voilà. L'interdiction de ce produit qui est pire qu'un herbicide. Bon, vous vous souvenez ces premières pubs, on arrosait, puis il y avait le chien qui venait, c'est-à-dire, allez-y, votre chien peut venir lécher après, il va survivre. Mais non, il faut vraiment qu'on passe par la conversion des cœurs, par la pédagogie, et que les gens, on leur dise, n'achetez plus, et que peu à peu, ça se fasse comme ça. Les réponses juridiques ou les réponses réglementaires, qu'elles soient dans un sens ou dans l'autre, sont souvent des réponses de deuil, des prises de conscience. C'est-à-dire qu'une petite élite veut prendre conscience pour d'autres et vous voyez, les sacs plastiques, c'est mauvais. Bon, aujourd'hui, est-ce que tout le monde en est persuadé? C'est pas sûr. Donc, comment faire pour les persuader? Et on aurait pu faire ça depuis longtemps. Et on peut multiplier l'exemple comme ça. Bon, si vous voulez, on essaie toujours de séparer ce point de vue, le point de vue du juge, le point de vue de l'éthique. Alors, bien sûr, les intérêts financiers, évidemment, c'est extrêmement important, mais ça l'est aussi dans la fécondation in vitro, dans les trafics aujourd'hui entre la Chine et le Japon, où des Japonaises sont payées 16 000 euros par de riches Chinois, par de riches couples chinois, pour une transaction d'une gestation pour autrui qui est facturée à peu près 150 000 à 200 000 euros. Voilà. Et l'argent, il se niche partout. Voilà. Alors, c'est tout ça qu'il faut peu à peu. Il faut éviter, me semble-t-il, enfin, le juge est utile, bien sûr, dans la régulation sociale, mais il est au niveau de la règle. L'éthique, elle est comment faire mieux, quoi, comment faire plus, comment agir en profondeur, comment provoquer les prises de conscience. Voilà. Mais sinon, pour le reste, oui, il y a des intérêts financiers, c'est évident.
Je me permettrai peut-être une dernière question. Est-ce que réfléchir, ça ne commence pas par éduquer? Quand l'éthique fera-t-elle partie du socle éducatif de nos sociétés? Nous sommes un certain nombre de scientifiques ici qui n'avons entendu parler d'éthique que parce qu'il y avait un effet de mode sur l'éthique, ou en tous les cas parce que les médias s'en étaient emparés. Dans notre cursus, ça n'a jamais fait partie de notre éducation. Vous avez dit à Sciences Po, c'est pas si mal, les médecins, c'est effleuré, les scientifiques, c'est absent. Quand n'y a-t-il pas urgence à intégrer ces réflexions ou le background éducatif qui va nous permettre de réfléchir correctement à cela?
Oui, voilà, là, je pense. Je crois que... j'aime bien le terme qui a été employé à Sciences Po, c'est le terme d'humanité scientifique. Parce que ça réconcilie ces deux mondes, vous savez. Et on y a été habitué pendant longtemps, vous savez, bon, le bac philo et puis le bac maths, quoi, voilà. Sans penser que c'est deux mondes qu'il faudrait réunir. Et le terme d'humanité scientifique, il dit bien cela. Hein. Il faut retrouver cette espèce de... que Ricoeur appelait de sagesse pratique, qui est précisément l'éthique. S'interroger, tiens, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais, etc. Si on prend, et ça, je le dirai au collègue qui gentiment m'a passé la future charte du chercheur de déontologie et d'éthique, c'est une charte de déontologie. C'est comme le serment d'Hippocrate. Ben, c'est bien, mais ce ne sera pas ça de l'éthique. Dire aux chercheurs, il ne faut pas plagier, il faut être certain de résultats, il faut, etc. Il faut, bon, très bien, je veux dire, comme je l'ai dit, ça ne pose pas de questionnement. Mais ce qu'il faut inviter, c'est à cette interrogation. Qu'est-ce que je fais là? À quoi ça sert? En quoi ça peut changer le monde? Est-ce que ça accroît en l'homme ce qu'il a d'humain? Voilà, c'est ces interrogations qu'il faudrait retrouver. Et c'est vrai que ça rentre très difficilement... parce que on n'en perçoit pas l'urgence. Voilà. On n'en perçoit pas l'urgence parce que l'éthique, ça retentit toujours un peu à distance. Voilà. Les conséquences, c'est des conséquences sur la fragilité. Et donc, elles n'apparaissent pas d'emblée et peu à peu, sans s'en apercevoir, on transforme le monde. Quand on voit aujourd'hui avec le CISPRR, là, le ciseau du génome, ce qu'on peut capable de faire, on peut reconstruire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, c'est tout cela auquel il faut penser. Et là, vous avez raison quand vous dites que la valorisation tue, parce qu'il y a derrière des biotechnologies avec des intérêts financiers considérables qui sont là et qui disent non, mais faites-le et faites semblant que vous avez traité des maladies et ensuite, qu'est-ce qu'on deviendra? Mais la preuve que les gens et que les chercheurs sont capables d'anticiper, mais en faisant participer les citoyens, mais ils peuvent participer. Regardez actuellement les travaux que fait Google sur le transhumanisme. Voilà, ce sera peut-être l'objet d'un autre débat, mais aujourd'hui, on sait que Google investit des sommes fabuleuses dans la construction de sable, de câbles sous-marins destinés à porter l'information d'un bout à l'autre du monde. Parce que Google rêve de mettre le cerveau sur ordinateur et de transformer l'homme en être immortel numériquement, quoi, hein, voilà. Et tout ça se traduit par des capacités d'anticipation. Donc, pendant longtemps, les chercheurs n'ont pas anticipé. Bien sûr que ça peut leur échapper, mais aujourd'hui, certains d'entre eux ont des buts. Et je crois que c'est ces buts-là qu'il faut éclaircir. Est-ce que c'est ce monde-là qu'on veut, ou est-ce que c'est un autre monde qu'on veut? Finalement, c'est ça le cœur du débat, quoi.
Merci, monsieur Gilles. Merci.